Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre huitième de cette quatrième saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Henri Martin.
Bonjour à vous, bonjour à tous.
Vous êtes notre invité, maire de Port-la-Nouvelle, vice-président de l'Aglo du Grand Narbonne, conseiller départemental aussi. Enfin, on reviendra sur certaines de ses missions dans une troisième partie. Mais en ce qui concerne les sujets du jour, eh bien, nous commencerons, Michel, par un sujet que tu intitules « Quelle stratégie de communication pour le tourisme dans l'Aude ?» Et puis, on enchaînera sur une pléthore de panneaux, justement, plus ou moins touristiques, au Pertus, c'est-à-dire à l'orée de la région Occitanie, partie sud. Dans une deuxième partie de cette émission, ce que tu intitules la drôle de guerre au château. Alors le château, c'est le palais en fait,
c'est
des archevêques plus que le château. Il s'agit de Narbonne. Voilà quelques interprétations sur ce que tu penses de ces récents événements. Et puis on finira par alors la salle multimodale, une explication, une tentative d'explication parce qu'on parle beaucoup d'un recours qui est fait, qui met en cause la conception, réalisation du marché. Mmh. Il y aurait problème là-dessus, sauf que on en parle, ça serait bien qu'on explique un petit peu ce que ça signifie et on compte sur toi pour le faire cette deuxième partie. Mais tout d'abord, quelle stratégie de communication pour le tourisme dans l'Aude ? Parce que finalement, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Et le président actuel, Sébastien Pla, de l'Agence départementale du tourisme, en est conscient.
Oui,
en est conscient
une petite parenthèse, il sera à ce micro très prochainement.
Il est conscient puisqu'il a tenu une conférence de presse après une réunion d'explication, plutôt de présentation par une agence spécialisée de l'état des lieux en fait en la matière dans le département et à l'évidence il a bien conscience qu'on ne peut pas en rester en l'état. Alors que je m'explique, il s'agit de marketing de la destination Aude. Alors que mes auditeurs, enfin que nos auditeurs me pardonnent, ce langage n'est pas le mien, ce langage des communicants qui est puissamment stupide, mais bon, il faut faire avec. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne. Moi-même, quelquefois, d'ailleurs, j'ai du mal effectivement à comprendre ce que signifie ce concept.
Oui,
mais
enfin,
passons.
Il faut faire avec parce que c'est la mode. Voilà. Ou il faut faire avec parce que c'est bien.
Bon, là, donc marketing destination Aude. Et c'est vrai que je n'ai pas saisi encore aujourd'hui les raisons qui ont amené les décideurs de ces départements il y a déjà quand même pas mal de temps à choisir la marque Pays Qatar comme bannière, comme drapeau, en fait, comme oriflamme d'un territoire qui ne possède aucun site visible, patrimonialement clairement identifié à ce mouvement religieux. Les châteaux dont on présente au Qatar ne l'ont jamais été.
Bon, ce qu'on appelle les châteaux Qatar, c'est des châteaux de l'époque de la croisade. Bon.
Oui, mais qui avaient été effectivement, sont des châteaux édifiés par le pouvoir royal de l'époque.
Qui ont été remodelés,
pour garder les frontières, etc. Bref, aucun moyen. Mais par contre, et c'est là où il y a un contresens non seulement historique, mais surtout touristique et de politique de communication en matière touristique, c'est que dans ce département, nous avons. Alors je le dis parce que. Et j'ai le sentiment, depuis quelque temps, en parlant à droite à gauche, que peu de gens, y compris parmi nos élus, que notre invité m'excuse, que l'on ne se rend pas compte que dans ce département, nous avons les deux sites médiévaux les plus visités de la région. La cité de Carcassonne, d'une part, et l'ensemble monumental de Narbonne, d'autre part.
Voilà, le palais des archevêques, alias le château, aujourd'hui.
À eux deux, en fait, ils constituent le premier site départemental médiéval visité dans la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Que ça, Et ça, ce n'est pas mis en valeur comme étendard, comme bannière, non, on dit marque Pays Qatar, qui n'a vraiment aucune visibilité, en tout cas bon, de l'importance de ces deux ensembles que je viens de citer.
Oui, la cité de Carcassonne a joué un petit rôle quand même dans la croisade des Albigeois.
Évidemment, on pourrait faire remonter aussi la création du palais d'archevêque à l'époque romaine, ce qui est vrai, quoi, donc d'une certaine manière.
Bon, les pierres.
Donc, alors, ce qui m'amène effectivement à Narbonne, parce qu'il n'y a pas que le département qui fait des erreurs de communication de ce niveau. la ville de Narbonne, idem. Pendant plus de 20 ans, la ville de Narbonne s'est vendue. S'est vendue comme quoi ? Comme ville romaine. Et de quel patrimoine visible dispose-t-elle en termes de romanité,
là, Jean-Claude ? Les pierres, il faut les chercher.
Des pierres, certes, mais elles sont entassées dans une église, elle aussi de type médiéval. Hein, entassées, je dis pas, elles sont effectivement entassées. Une église, entre parenthèses, qui est très belle, mais qui n'est pas mise en valeur pour cause, effectivement, de son rôle d'entrepôt.
Manque d'espace,
Donc, on est donc dans une région où, paradoxalement, on a des patrimoines médiévaux qui sont visités par des quantités de touristes fait invraisemblables, hein, qui sont pas mis en valeur fait et comme identité particulièrement marquante de ce territoire. On a d'autre part un littoral qui lui aussi est totalement mis de côté, hein, et pas mis en valeur. J'ouvre une parenthèse là aussi sur l'ensemble de la côte méditerranéenne, en tout cas de l'ex-Languedoc-Roussillon et de l'actuelle Occitanie. C'est certainement le plus beau paysage, je parle du littoral audois, lagunaire de cette région, le plus beau, et de très loin. Ben ça, bon, on n'en parle pas. C'est considéré effectivement comme allant de soi. Hein. Donc, alors je ne dis pas qu'il faille aujourd'hui imposer, en fait, brutalement comme ça, une marque qui prendrait appui sur ces deux réalités qui sont incontestables. Je ne parle même pas du canal du Midi, quoi. Hein. 2,5 millions visiteurs de Toulouse, en fait, à 7, quoi. Hein. Bon, que ça, hein. Mais bon, je ne dis pas qu'il faille donc remettre en question brutalement la marque Pays Cathar et brandir maintenant une bannière médiévale, en fait, et littorale. Mais tout ça pour dire quand même, en fait, à Monsieur Plat, qu'on recevra bientôt, en fait, hein, et aux communicants, qu'il y a là matière à réflexion. D'autre part, une deuxième question qui est posée par la mise en œuvre d'une stratégie cohérente en matière de tourisme, je parle de stratégie de communication, c'est effectivement la multiplicité des acteurs, en fait.
Des responsabilités.
Carcassonne, deux offices du tourisme. Un par l'agglo, en fait, un à l'île de Carcassonne. Sur le Grand Narbonne, quatre offices du tourisme. Narbonne, Le Cat, Gruissant et le Grand Narbonne. Un comité départemental, enfin, une agence de développement du tourisme, Monsieur Plat, un comité régional du tourisme, sans compter les acteurs privés. Et tout ça communique avec un plan de charge, hein, des objectifs, hein, un plan marketing totalement différent. Alors, nonobstant, enfin, que l'on se mette d'accord sur une marque, en fait, et sur une, des objectifs, comme je viens de l'exposer la première partie, le problème le plus redoutable qui va se trouver posé, effectivement, aux acteurs du tourisme demain, c'est effectivement celui de gérer de manière rationnelle, cohérente, et efficace, hein, en matière de communication à travers tous ces outils qui, aujourd'hui, se regardent un petit peu, en chaîne faïence, à droite, à gauche, hein, et quand je dis cela, je suis plutôt gentil.
Ouais. Alors, cet ensemble, le palais des archevêques médiéval, très visité, viens-tu le souligner, Michel. Aujourd'hui, c'est la mairie de Narbonne, c'est ce que tu appelles ironiquement le château.
Oui.
Alors, il semblerait qu'au niveau du château, il se passe des choses.
Oui. Alors, je ne vais pas revenir
ici. Enfin, tu as fait un billet là-dessus.
Oui, je vais pas revenir sur les conditions administratives et juridiques du licenciement, puisqu'il s'agit de cela, de Madame Mbach, la directrice générale des services de la ville de Narbonne. Parce que bon, je sais très bien dans ce contexte-là, pour l'avoir vécu moi-même, en fait, en responsabilité dans plusieurs institutions, enfin, en mission centrale, en fait, des collectivités locales, que, se mêle toujours, en fait, hein, au regard que l'on pose sur ce genre de situation, du règlement de compte personnel, de la jalousie,
les hommes restent les hommes.
Bon, bref, hein. Donc, de sorte que j'ai toujours tendance, dans un premier temps, à faire preuve d'une certaine neutralité bienveillante à l'égard des personnels administratifs, donc technocratiques, comme je le fus dans le passé. Donc, je n'hésite pas dessus.
En l'occurrence,
par contre, mon expérience démontre, enfin, laisse à penser, elle, hein, que derrière ou sous ces problèmes se règlent toujours, effectivement, des conflits politiques. Et que le techno de service, en l'espèce Madame Mbach, hein, joue le rôle de bouc émissaire, un peu comme, je ne sais pas si nos auditeurs lisent ou ont lu Daniel Penac et ses ouvrages dans la série noire sur le sieur Maloussène, qui jouait le rôle de bouc émissaire, mais voilà, donc, pouf, il y a un conflit entre deux personnalités politiques, hein, et puis paf, on fait sauter effectivement celle qui au milieu fait l'objet de ce statut de bouc émissaire, et on la fait sauter. Et j'ai tendance à penser, je peux me tromper, mais c'est mon regard, mon contre-regard, que dans cette affaire, Madame Mac paie le prix, effectivement, d'un conflit objectif et politique entre Monsieur Malquier et Monsieur Mouly. Mmh. Je rappelle quand même que Monsieur Malquier est le premier adjoint de Mouly, qu'il a en charge de l'administration régionale, hein, que il fait office de directeur de cabinet.
Pas, ce qui n'en fait pas forcément un adversaire du maire, a priori.
Non, mais en tout cas, bon, il a tendance à considérer, me semble-t-il, que entre lui et entre lui et M. Mouly, une personne au milieu qui en plus est proche du maire, c'est particulièrement gênant et que ça lui offre moins de prise intellectuelle et psychologique sur celui dont il avait dit, je le rappelle quand même au passage, dans une interview à M. Cunel, qu'il avait choisi lui-même, en fait, un Didier Mouly. Pour tirer la liste.
Ça, c'est une formule maintenant.
Oui, mais qui est tout un programme en soi, en tout cas, moi, implicite. Donc, voilà, le regard que je portais là-dessus, c'était de dire, mais Madame Bach a joué un peu le rôle de bouc émissaire dans cette affaire entre, pour résoudre un conflit politique entre Didier Mouly et Bertrand Malquier. Donc, Bertrand Malquier a gagné la première manche, là. Qu'est-ce que ça présage du futur entre eux deux pour les prochaines municipales? Je crains qu'effectivement, ça soit le début d'une drôle de guerre.
Bon, tu auras matière à interprétation. Alors, un petit mot peut-être, Henri Martin, là-dessus.
Très rapide. Je crois que la fonction de directeur général des services est une fonction quand même qui est très compliquée, puisqu'il faut à la fois séduire les élus et puis être en osmose totale avec le maire. C'est un poste qui est au plus près de l'exécutif. C'est un poste qui demande beaucoup de qualité. Et c'est vrai que lors de l'installation d'une nouvelle équipe municipale, comme ce fut le cas à Narbonne, c'est une équipe de conquête. Et donc, il paraît peut-être un petit peu difficile de concilier à la fois la direction fixée par le maire et certains de ses adjoints, de sa garde rapprochée, et certains élus. Donc, par conséquent, on est un petit peu ballotté. Et bon, heureusement pour eux, les directeurs généraux de service ont un statut qui leur permet de pouvoir mettre fin à leur fonction sans trop de dommages, comme c'est le cas, je pense, avec Mme Bumbach. Mais bon, je le répète, c'est un métier qui est difficile.
Qui est difficile.
Que, très proche du maire, il doit être en accord total avec l'élu. Et à partir du moment où il peut y avoir un dysfonctionnement dû peut-être à des parasitages, effectivement, d'autres élus qui sont parfois plénipotentiaires, on peut comprendre que il faille en arriver à résoudre le problème, parfois, par le départ d'un d'entre eux.
Bon, donc c'est pas la première fois, c'est pas la dernière que de tels événements se produisent, vu le descriptif de la sensibilité du poste. Et on marque une première pause.